Pourquoi se confesser un prêtre? Oui, pourquoi? Hein? Puis il y a des objections courantes qu'on entend continuellement contre ça. Hein? Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Oui, les objections, je vous les cite, il y en a 10 à peu près. On veut pas se confesser parce que on dit je ne me sens plus tellement pécheur, de toute façon, je sais pas quoi dire. Hein? Ou bien j'accuse toujours les mêmes fautes. Quoi dire à la confesse? Il y en a d'autres qui disent de toute façon, j'en éprouve pas le besoin. Il y a aussi les gens qui sont intimidés par ça. C'est un beau texte de Don Claude Jeanémy là-dessus qui raconte l'aventure de Jacques Rivière, ce grand écrivain qui parlait comme ça. Il disait, c'est une démarche trop humiliante, mais quand même, il la faisait. Il y en a d'autres qui disent, oh ben moi, je me confesse directement à Dieu. On entend ça de plus en plus. Il y a aussi les gens qui trouvent que le meuble du confessionnal, cette espèce d'endroit où il faut s'enfermer, ça les gêne, ils se sentent mal à l'aise là-dedans. Il fait noir et puis ils se sentent pas bien du tout. Il y en a d'autres qui disent, bah les prêtres ont autre chose à faire, ils sont peu nombreux, il faut pas aller les ennuyer, les achaler, quoi. Il y en a d'autres qui disent, bah moi je préfère, comme Gilbert Charron, les célébrations pénitentielles collectives. Puis, il y en a aussi qui disent, Dieu n'en demande pas de temps pour accorder son pardon, quoi, faut pas s'en faire. Et oui, on entend toutes ces choses-là. J'aimerais vous dire ce qu'en pense un protestant, qui est devenu catholique depuis. C'est le fameux moine de Thésée, Max Turian, qui était, pour ainsi dire, le bras droit de Roger Schütz, le prieur de Thésée. Vous savez qu'il y a un grand monastère protestant en France. Il y a des gens qui ignorent ça. C'est en Bourgogne. C'est un monastère très important, monastère protestant, où il y a quelques catholiques qui ont eu l'autorisation, dans le temps de Jean XXIII, et par la suite, d'être moines dans ce monastère protestant. Et il y a même quelques moines orthodoxes. Mais le très grand ensemble, ce sont des protestants de différentes origines, en bonne partie de l'Église réformée de France. Or, bien avant de devenir catholique, Max Turian, le frère Max Turian, considérait la confession comme un sacrement, au même titre que le baptême et l'Eucharistie. Il est mort récemment, Max Turian. Mais dans ce temps-là, il y a 35 ans, il était bien protestant. Il avait publié « La Confession » chez Delachaux et Niesley, avec une préface de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, le pasteur Marc Bugner, qui était, pour ainsi dire, le chef de l'Église réformée de France. C'était un saint homme, ça. Un grand protestant, admirable. Max Turian a d'ailleurs repris le problème de la confession dans son beau livre, un des plus beaux livres chrétiens qui soit, L'essentiel de la foi, paru dans le livre de vie, la collection Livre de vie, n'est-ce pas, en 1972, il me semble. C'était publié par les presses de Thésée. Thésée, c'est le monastère. Voici le texte de 1962, de Max Turian. C'est très, très important. Écoutez ça, vous allez voir comment un protestant regarde la confession, le sacrement de la confession, et c'est admirable. Il semblerait que l'affirmation de la transcendance de Dieu exclue la possibilité pour l'Église de déclarer le pardon des péchés, puis de donner vraiment l'absolution. Bon. Il continue en disant, « Or, cette conception judaïsante, c'est une conception où on se fait de Dieu une idée tellement transcendantale, tellement élevée, tellement fantastique, que, il dit bien, cette conception judaïsante est dépassée depuis l'événement de l'incarnation qu'on va fêter, là, le 25 décembre. Le Fils de l'homme a vraiment, dit Max Turian, sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et il ajoute, c'est très important. Dans son humanité, le Christ peut absoudre et il en donne le signe en guérissant le paralytique. C'est en Matthieu chapitre 9, verset 8. Je lis. À cette vue, La foule fut saisie de crainte, puis elle rendit gloire à Dieu de ce qu'il avait donné un tel pouvoir aux hommes. Max Turian ajoute le pouvoir de pardonner, comme celui de guérir, parce qu'il est un privilège du Fils de l'homme, est aussi conféré aux hommes. C'est dans le texte que je viens de vous lire, de ce qu'il a donné un tel pouvoir aux hommes. Alors, comment ça se fait que c'est conféré aux hommes? Max Turian, il dit, en tant qu'ils sont unis à Jésus-Christ dans l'Église. Qui est si étroitement uni à Jésus-Christ dans l'Église? Ce sont nos chers prêtres. Oui, souvent nos humbles prêtres, mais aussi nos prêtres admirables. Je peux vous dire en toute franchise que je n'ai jamais été déçu depuis bien longtemps d'un prêtre au confessionnal. Que ce soit chez les Dominicains de la rue Saint-Denis, que ce soit sur le boulevard Mont-Royal chez les Pères du Saint-Sacrement, que ce soit chez les Jésuites au Jésus, rue de Bleury, au sud de Sainte-Catherine, que ce soit chez les Franciscains du boulevard René-Lévesque. Oh, il y a là un confesseur qui est très bon, qui est toujours au poste. Ah, à 5h15, comme une horloge, il est là. Et il quitte vers 5h10. 25 minutes, tous les jours, il est là. C'est admirable. Au Jésus, c'est extraordinaire aussi, les confesseurs qui sont presque toujours au poste, et on peut toujours en avoir de très bons confesseurs en général. Et Max Turian complète son texte en disant « L'Église, corps du Christ, qui signifie aujourd'hui l'humanité de Jésus agissant dans ce monde, conserve ce pouvoir de l'absolution. Il ne s'agit donc pas seulement de prêcher le pardon, mais véritablement de l'accorder, et l'Église n'a pas seulement un devoir de prédication de la miséricorde de Dieu pour susciter la foi et l'assurance du pardon, mais elle a le pouvoir de remettre effectivement les péchés par le signe efficace de l'absolution. Ce ministère de l'absolution fait partie de la mission des apôtres de l'Église. Jésus, continue le frère Max Turian, un protestant, je vous le dis à l'époque, ça date de 1962, ça. Jésus a comparé et signifié ce pardon par la guérison d'un paralytique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'Église déclare l'absolution des péchés. Elle relève miraculeusement un homme paralysé par ses fautes. Elle fait une œuvre de résurrection spirituelle. C'est le ressuscité qui agit en elle. Quand on sort d'un confessionnal, on est comme ressuscité. C'est le ressuscité qui, au soir de Pâques, a conféré à ses apôtres et paru à l'Église le pouvoir et la mission du pardon. Le Seigneur leur dit, vous souvenez cette parole-là, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est très important ça. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Père, dit Max Turian, le Père a envoyé le Fils qui sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, et le Fils envoie semblablement l'Église avec ce même pouvoir, et ce sont nos prêtres qui ont ce pouvoir. Dans Saint Jean, chapitre 20, il dit bien, et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. D'accord, je vous concède que c'est un fait que les catholiques, même ceux qui vont à la messe tous les dimanches, se confessent beaucoup, beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Un autre fait, il y a beaucoup de jeunes, puis de moins jeunes, qui découvrent au cours d'une récollection, d'un pèlerinage, la joie de se confesser. Et après avoir reçu la grâce de se reconnaître pauvres pécheurs, ils sont tout heureux de se laisser rajeunir le cœur dans le sacrement. On les voit, ils nous disent, j'ai l'impression d'avoir des ailes. Et du coup, les voilà pleinement réconciliés avec eux-mêmes, avec les autres, pris avec Dieu. Pourquoi? C'est pas rien qu'un phénomène psychologique. Il y a de ça, le fait de dire avec sa bouche ce qui habite notre cœur, de dire et d'entendre avec ses oreilles nos péchés sortir par notre bouche. Ils entrent dans le cœur de Jésus-Christ qui est là, qui est le prêtre. et ce cœur miséricordieux du Christ pardonne. Quand le prêtre donne l'absolution, c'est le Christ qui pardonne. Je vous pardonne vos péchés. Quand il dit « je », c'est le Christ qui dit « je ». C'est son pouvoir au prêtre. Ce doux pouvoir de service. C'est pas un pouvoir comme le pouvoir dans le monde. Ça n'a rien à voir. C'est un pouvoir mystique, un pouvoir de service. Un pouvoir difficile à exercer, un pouvoir pénible. Mais un doux pouvoir. Un pouvoir qui a fait que de grands saints restaient au confessionnal des heures et des heures. Quand je me suis confessé au Père Pio, j'ai attendu plusieurs jours. Oui, il fallait s'inscrire, ça prenait des jours. C'est pas l'effort de sincérité qui rebute le plus la jeune génération ou la génération actuelle. On ne peut vraiment pas dire que les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont plus hypocrites que leurs aînés, non, non. On ferait donc fausse route, en pensant que la peur de l'aveu, c'est le principal motif de la désaffection actuelle vis-à-vis de la confession. Il y a des raisons bien plus profondes que ça. Il y a toutes sortes de courants contemporains qui essaient de nous persuader que la notion de péché est périmée. Non, c'est pas vrai. Pour se reconnaître pécheur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut oser croire à sa liberté au milieu des multiples conditionnements de notre existence, et celui qui se confesse reconnaît avoir agi par sa faute, tout simplement, par sa faute. Il ne s'agit pas d'avoir une conscience toute tordue pour aller achaler et ennuyer les prêtres, il s'agit d'être logique et sincère et bref. Il ne s'agit pas de s'étendre pendant un quart d'heure. N'ennuyons pas nos prêtres. Il faut croire aussi à l'existence d'une loi que le Seigneur nous présente comme impérative. C'est une loi, une source, un chemin vers le bonheur, cette loi. Et celui qui se confesse reconnaît n'avoir pas été toujours fidèle au double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. C'est surtout ça. Cherchons à cerner vraiment en quoi nos péchés intimes sont sérieux. Et confessons-les. Et recevons du Christ par le prêtre le doux pardon qui nous relie intimement et plus intimement toujours avec Dieu notre Père. Nous verrons tout à l'heure la suite. Alors, les gens qui disent « j'accuse toujours les mêmes fautes », c'est une constatation bien décourageante de leur part. C'est bien la preuve, disent-ils, que nos confessions ne servent à rien. Ça sert à rien, puisqu'on répète toujours la même chose. C'est une objection qui a le mérite de nous rappeler une nécessité. La nécessité de prendre, lors de nos confessions, une résolution pratique très précise. Et je dirais que c'est même cette résolution, ce désir concret de changer. Il faut bien arriver à un moment donné à dire oui à Dieu. Et ce sera, on va pouvoir le voir, c'est ça qui fait, je dirais, qui rend l'absolution du prêtre comme une consécration. Si nos confessions ne portent pas plus de fruits, c'est souvent que nous n'avons pas pris la résolution qui convenait, puis on prend pas aussi les moyens d'en sortir. On fréquente les mêmes personnes, on circule dans les mêmes sentiers, puis on... Ou bien, on se laisse aller trop facilement. On prend pas de résolution foncière en demandant à l'Esprit-Saint de s'emparer de nous. Mais par ailleurs, on doit pas s'étonner de retomber souvent dans les mêmes fautes. Dieu ne nous demande d'ailleurs pas de faire des péchés nouveaux. Bon, c'est une blague, là. Nous pouvons être tout à fait sincères dans le ferme propos que nous prenons, même si nous prévoyons que, bon, c'est bien qu'on est fragile, il va nous arriver encore de pécher. Mais notre caractère puis nos faiblesses demeurent. Ça, c'est sûr, on est pogné, comme on dit, hein. Mais autrement dit, quand je me confesse, je ne prends pas la résolution de ne plus jamais me confesser. Tellement je suis sûr de ne plus jamais pécher. C'est pas ça. Je viens reconnaître, au contraire, que je suis puis que je serai jusqu'à ma mort un pauvre pécheur pardonné. Seigneur Jésus, Sauveur, prends pitié de moi, pauvre pécheur. C'est le curé d'Ars qui disait, on dit qu'il y en a beaucoup qui se confessent et peu qui se convertissent. Je le crois bien. C'est qu'il y en a peu qui se confessent avec repentir. Il disait aussi, Dieu sait toutes choses. D'avance, il sait qu'après vous êtes confessé, vous pécherez de nouveau, et cependant, il vous pardonne. Quel amour que celui de notre Dieu qui va jusqu'à oublier volontairement l'avenir pour nous pardonner. Quelle intelligence avait ce curé d'Ars qui était un pauvre petit prêtre, qui est devenu le grand patron de tous les prêtres. Ceux qui disent « je ne sais pas quoi dire », eh bien, jadis, les pénitents étaient invités à faire leur examen de conscience par rapport à la liste, vous vous souvenez, des 10 commandements de Dieu, les commandements de la loi, comme on dit, les commandements de l'Église. Aujourd'hui, on ne sait plus bien ce qui est péché, puisqu'il ne l'est pas. On ne sait plus, en tout cas, ce qu'il faut accuser comme péché. On a une existence plutôt trépidante. Ça nous mène, très souvent, dans des vies où il n'y a pas grand vie intérieure, il n'y a pas grand examen de conscience. Jésus n'est pas venu abroger les 10 commandements de la loi. Il est donc tout à fait légitime de continuer à se confesser en suivant la liste des 10 commandements de Dieu. Oh, on va me dire que je suis vieux jeu. Mais voyons donc, les 10 commandements de Dieu n'ont pas été abrogés. Ils sont toujours là, écrits. Ce sont des commandements qui sont des conseils essentiels de bonheur. Ce sont des conseils qui viennent du cœur tout amoureux de Dieu notre Père. Sa volonté, c'est une volonté amoureuse. C'est pas une volonté d'écrasement, pas du tout. L'Église nous exhorte davantage aujourd'hui à faire une révision de vie, hein, par rapport aux exigences de l'Évangile. Seigneur, tu me dis de ne pas m'inquiéter du lendemain et j'ai peur. Tu me dis d'aimer mon prochain comme tu l'aimes et je l'aime bien peu. Tu me dis de prier sans cesse, puis je prie fort peu, puis fort mal, et je prie souvent absolument pas dans toute une journée, et pendant 6 jours de la semaine, je prie pas, sauf à la messe le dimanche, et encore. Il faut s'accuser de ça. Et prendre des résolutions. Et avec l'absolution, la grâce qui vient là, l'Esprit Saint qui devient plus puissant, l'Esprit de Jésus qui devient plus puissant en nous, de se transformer pour trouver quoi? Le bonheur. C'est opportun aussi de voir la façon dont on pêche par pensée, par parole, par action et par omission. Et on le dit souvent au début de la messe, par pensée. En quoi ai-je péché? Par parole. Il ne faut pas être scrupuleux, là. Pas tomber dans le scrupule. Il s'agit d'être logique, là. Curé d'Ars, d'ailleurs, disait, évitez toutes ces accusations inutiles qui font perdre le temps du confesseur, fatiguent ceux qui attendent pour se confesser et éteignent la dévotion. Après avoir disputé son mari, fait carillon chez elle, elle ira se confesser d'avoir manqué son bénédit chuté. Elle n'a pas prié avant de manger. Mais elle engueule son mari. On l'entend partout autour de la maison qui crie après son mari, mais elle n'a pas dit son bénédit chuté, puis elle accuse rien que ça. C'est le curé d'Ars qui parle, pas moi, là. On insiste aussi beaucoup de nos jours sur la responsabilité qui est la nôtre dans toutes les injustices du monde, hein. C'est très important aussi. La faim, la malnutrition, la lèpre, les guerres, les inégalités sociales, le racisme, les tortures. Nous avons des responsabilités, mais ces péchés collectifs auxquels nous prenons part ne doivent pas nous masquer nos petits péchés personnels. Petits? Pas si petits que ça. Rien n'est plus démobilisateur qu'une dénonciation systématique de ce péché du monde qui ne s'accompagne pas d'une vue réaliste de ce que nous pouvons faire dès aujourd'hui, seuls et avec d'autres, pour rendre le monde meilleur. Les gens qui disent « je n'en éprouve pas le besoin », mais on pourrait d'abord répondre qu'on n'a pas toujours envie d'accomplir certaines démarches dont on a pourtant grand besoin. Pensons à ce que nous pouvons éprouver à la veille d'une opération chirurgicale. C'est évident, il est dommage d'organiser sa vie chrétienne en ne tenant compte que de ses impressions. C'est pas des impressions, la vie chrétienne. On risque alors de laisser tomber beaucoup de choses objectivement importantes comme la prière, le souci des pauvres, le souci concret des pauvres, un certain nombre d'engagements, etc. Disons plus profondément que le rôle de la confession, c'est pas d'abord de répondre à un besoin psychologique de se confier. C'est un peu ça, mais ça n'est pas que ça. Dans la confession, le prêtre est plus un médecin auquel on vient demander le pardon du Seigneur, Jésus, qu'un confident. Et cependant, il faut reconnaître que l'aspect confidence de la confession n'est pas négligeable, ça aide beaucoup. Aujourd'hui, on se confie sur les ondes, on se confie à n'importe qui le soir, la nuit, le matin, l'après-midi, on entend ça sur toutes sortes de postes. Toutes ces confidences. Les psychologues, les psychiatres n'arrêtent pas de recevoir du monde. Les gens ont besoin de se confier. Le prêtre est souvent le témoin émerveillé, lui, de la libération psychologique qui se produit chez un pénitent qui réussit à se décharger de fautes qui sont lourdes à porter comme une passion honteuse, une haine très ancienne, une jalousie féroce. Une infidélité conjugale. C'est grave, ça. C'est dans l'Évangile. Ou des séries de mensonges. Évidemment, le fait de savoir que le confesseur est tenu au secret le plus absolu facilite beaucoup nos aveux. D'un ancien aumônier de la prison de Fresnes, en France, l'abbé Jean Popeau, qui a accompagné à l'échafaud un très grand nombre de prisonniers, a confié sans trahir aucun secret, étant donné la longue durée de son ministère, ce qui l'avait le plus frappé durant toutes ces années. Au petit matin de leur exécution capitale, les grands criminels ne s'accusent jamais en confession de crimes affreux pour lesquels ils ont été condamnés à mort et que tout le monde connaît, mais ils éprouvent le besoin d'aller rechercher dans leur mémoire les fautes bien secrètes de leur jeunesse, qui ont souvent été à l'origine de leur déchéance. Il y a les gens aussi qui disent que cette démarche est trop humiliante. Mais seule une présentation authentique du sacrement permet de répondre vraiment à cette objection. En effet, la confession, c'est pas une pénitence, une humiliation que Dieu nous impose pour nous accorder son pardon. D'ailleurs, tout l'aspect humiliant de l'aveu, ça disparaît quand on se souvient d'abord que le prêtre est lui-même, quoi, un pécheur. Il se confesse, lui aussi. Ben oui, j'en vois, moi, des prêtres qui se confessent. Il a spontanément de l'admiration aussi pour la loyauté puis la simplicité avec lesquelles un bon pénitent se confesse. Il est plus frappé par cette sincérité que par les péchés eux-mêmes, lesquels n'ont rien d'original. Il en a tellement entendu. Puis troisièmement, ce que nous apportons aux prêtres, ce n'est pas tant une liste de fautes que l'humble reconnaissance de notre condition de pécheur, puis la volonté d'en sortir. Et n'oublions pas enfin que nous avons toujours le droit de nous confesser à un prêtre avec lequel nous nous sentons plus à l'aise. Alors n'hésitez pas. Sur la confession, il y a des gens qui disent « je me confesse directement à Dieu », comme les protestants. Ça m'énerve quand j'entends ça, parce que c'est une objection qui est ressassée. Et à mon avis, elle vient tout simplement d'une ignorance. C'est pas une ignorance coupable, là. C'est une ignorance. Bon. Parce qu'il manque pas de protestants luthériens qui se confessent. Il y a bien des églises anglicanes où il y a des confessionnaux. On dira les anglicans sont pas vraiment des protestants. Bon, peut-être. De toute façon, Luther a souvent redit, Luther, je dis bien, a souvent redit qu'il avait beaucoup reçu de la pratique du sacrement de la pénitence, ou de la confession, ou de la réconciliation, et qu'il espérait bien que les réformés, les protestants, quoi, ne l'abandonneraient jamais. Voici, une fois, il déclare ça. « Je ne veux pas me laisser enlever par personne la confession auriculaire. » La confession là, auriculaire, c'est dans l'oreille du prêtre. La confession auriculaire. « Et je ne voudrais pas la donner pour tous les trésors du monde. J'aurais été depuis longtemps vaincu et égorgé par le diable si cette confession ne m'était pas restée. » C'est Luther qui dit ça. Dans une conférence à Douai, le pasteur Marc Bugner, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faudrait que je vous fasse une émission sur lui, c'était un très grand pasteur, donnait un détail significatif, lui, sur le renouveau de ce sacrement chez les protestants, chez ses frères réformés. En Allemagne, les architectes ont pris l'habitude de construire des sacristies plus spacieuses près des temples protestants afin de faciliter la rencontre des fidèles avec le ministre de la Réconciliation. Évidemment, le ministère de la Réconciliation n'est pas toujours considéré un peu comme nous le considérons, mais enfin. Il est clair que pour se confesser, il faut croire de tout son cœur que le Christ a voulu pour son Église là, des ministres, des prêtres chargés de consacrer validement l'Eucharistie et de consacrer pareillement le désir de réconciliation des fidèles. Nous voyons dans l'Évangile le Christ qui donne à ses apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre les péchés. Vous voulez des références? Matthieu, chapitre 16, Matthieu, chapitre 18, Saint Jean, chapitre 20. Il est vrai que la pratique de la confession privée telle qu'elle existe maintenant, c'est vrai que ça n'a été introduit dans l'Église qu'au 5e siècle en Irlande, du temps de Saint Patrick. Quand les moines de Saint Colomban sont venus évangéliser la France ou la Gaule, au début du 7e siècle, l'usage alors s'en est répandu là, dans l'Église, au temps de Charlemagne, puis dans l'Église tout entière, avant d'être solennellement consacré quand? Par le 4e Concile de Latran en 1215. C'est vrai, ça. Alors, certains chrétiens se demandent si l'Église ne devrait pas revenir à la pratique des premiers siècles, où n'existait qu'un rite de réconciliation pour les pécheurs publics. C'est le père Bernard Brault, B.R.O., qui écrit bien ce qui suit, dans Le secret de la confession, qui est paru aux éditions du Cerf en 1983, je lis en page 92-93, Père Brault dit, il faudra un jour analyser pourquoi on est progressiste en certains secteurs de la pastorale et pourquoi on est pour le retour au passéisme le plus hésitant en certains autres. C'est vrai, hein? C'est vrai, l'Église n'est pas prête d'abandonner une pratique sacramentelle qui a porté tant de fruits dans son histoire et qui continue à en porter. Combien de convertis, ah mon Dieu, moi j'en ai vu des convertis autour de moi qui ont témoigné que la confession de leurs péchés à un prêtre, loin de les avoir troublés ou aliénés, ça les avait libérés, ça les avait lancés pour toujours sur la voie de la confiance puis de l'amour. La conversion définitive, exemple du père de Foucault, après sa conversion à l'abbé Huvelin, à la paroisse Saint-Augustin, Paris, en octobre 1886, c'est pas un phénomène rare, ça, vous savez, hein, le père de Foucault rentre dans le confessionnal et change totalement de vie. Rappelons enfin que, même si je me confesse régulièrement un prêtre, plus souvent encore, je me confesse directement à Dieu. C'est sûr. C'est chaque jour que je lui dis, Père, pardonne-nous nos offenses. Seigneur, prends pitié. On se confesse tous les jours, matin, midi, soir, en priant. Mais de temps en temps, on voit un prêtre. Ceux qui disent que le meuble du confessionnal les gêne, bien, beaucoup de chrétiens souhaitent qu'on remplace ce meuble. Depuis quand a-t-on des confessionnaux? Depuis le 16e siècle. On voudrait des parloirs plus aérés et moins sombres. C'est bien. Des parloirs où les fidèles peuvent, s'ils le désirent, avoir un entretien plus personnalisé, plus profond, plus vrai avec le confesseur. À l'oratoire Saint-Joseph, il y a un de ces confessionnaux qui est installé de cette façon, et dans plusieurs églises à Montréal, on entre dans des confessionnaux, on peut s'asseoir, il y a une petite lampe, et on voit très bien le prêtre, et on est très bien vu par le prêtre, et on peut causer avec notre frère prêtre, qui est notre père en même temps, et qui est Jésus-Christ. Déjà, au siècle dernier, le curé d'Ars avait pris l'habitude, lui, de confesser les hommes à la sacristie, comme quand je me suis confessé au père Pio, c'était à la sacristie, à San Giovanni Rotondo, en Italie. Beaucoup d'églises, toutes les basiliques de pèlerinage notamment, ont effectué ces changements, pour la plus grande joie des fidèles. Même si au départ, certains sont quelque peu déroutés par cette nouvelle façon de rencontrer le prêtre. Il y en a, ça les gêne. Il y a mieux l'ancien confessionnal. On peut choisir, il n'y a pas de problème. Quel que soit de toute façon le lieu adopté, on n'est pas obligé de raconter sa vie. La valeur d'une confession, c'est pas la longueur d'une confession, c'est son intensité. Bref, sur les choses essentielles, profondes. Quand on dit les prêtres ont autre chose à faire, c'est un ministère de guérison, oublions pas ça, c'est un ministère de guérison puis d'accompagnement spirituel. C'est une partie très importante du ministère sacerdotal. Et je crois bien que tous les prêtres, sinon presque tous, le considèrent comme très important. Ils seraient heureux de pouvoir l'exercer si nous étions peut-être plus intelligents et une façon plus intelligente aussi d'approcher de nos fautes. Dans un livre, le sacrement de pénitence en question, il est dit, ôter aux pécheurs la possibilité ou la facilité de se confesser, c'est leur enlever leur droit à la préférence personnelle que Jésus a pour eux et qui se manifeste à chaque page de l'Évangile. Jésus n'a jamais accompli de guérison physique ou morale sans imposer personnellement les mains aux intéressés, sans s'informer de leur adhésion de foi et de leurs aspirations. Ceux qui disent « je préfère les célébrations pénitentielles collectives » t'as déjà porté leurs fruits, ces célébrations. Ça va continuer à en porter, et c'est excellent. Moi, je ne m'y oppose pas personnellement. Il est bon que les chrétiens célèbrent régulièrement, puis de façon communautaire, en Église, leur condition de pécheurs pardonnés. C'est profitable de prendre le temps d'écouter ensemble la parole de Dieu, puis de se laisser bousculer par elle. C'est important aussi que nous tous ensemble, nous prenions conscience de nos responsabilités collectives et que nous devenions capables de nous pardonner les uns aux autres nos duretés, nos froideurs, et que nous sachions enfin nous réconcilier profondément, là, en vérité, autrement que par une simple poignée de main. Oui, mais l'Église nous demande aussi de redécouvrir les bienfaits de la confession individuelle. Les retombées de ces confessions individuelles sur la vie sociale, sur l'évangélisation du monde sont évidentes. Cette confession reste pour beaucoup de fidèles l'occasion, comme privilégiée, de bénéficier de l'accompagnement spirituel d'un prêtre, d'un bon prêtre, pour le progrès de leur vie chrétienne. On a besoin de ça. Ceux qui disent « Dieu n'en demande pas tant pour accorder son pardon », mais moi je suis sûr que le Dieu qui se révèle dans l'Évangile comme un père attentif au moindre signe de repentir de ses enfants, il exige de nous une confession en bonne et due forme pour nous accorder notre pardon. Oui, je le crois. Par contre, on peut obtenir un pardon complet sans se confesser, mais à la condition d'aller se confesser plus tard. Le Seigneur, notre Dieu, est un océan de miséricorde. Il a déjà pardonné à des millions d'hommes et de femmes qui ne se sont jamais confessés. Pensons aux musulmans, aux juifs, aux hommes de bonne volonté, qui ne croyaient pas à la valeur du sacrement de la réconciliation, mais qui, au fond de leur conscience, ont reconnu leur faute. Ils sont pardonnés. Mais c'est toujours par Jésus-Christ, là, sauveur de tous les hommes, que le Père envoie son esprit dans le cœur des hommes pour les guérir, pour les purifier. C'est par Jésus-Christ uni indissolublement son Église. C'est Isaac de l'Étoile, ce fameux moine cistercien anglais du XIIe siècle, qui disait « L'Église ne peut rien pardonner sans le Christ, mais le Christ ne veut rien pardonner sans l'Église. Garde-toi bien de séparer la tête du corps. N'empêche pas le Christ d'exister tout entier, car le Christ n'existe nulle part tout entier sans l'Église, ni l'Église sans le Christ. Il ne suffit pas d'avouer son péché pour être pardonné. En rapportant les 30 pièces d'argent au grand prêtre et aux anciens, Judas avouait son péché. Il dit « J'ai péché » en livrant le sang de l'innocent, mais s'est enfermé dans sa culpabilité. Il n'a pas voulu se souvenir de ce qu'il avait vu pendant des mois et des années. La conduite de Jésus envers tous les pécheurs. Souvenons-nous, nous, depuis notre enfance, nous l'avons vu, la conduite de Jésus dans notre Église. Et Judas n'a pas voulu se souvenir du regard que Jésus avait posé sur lui à Gethsémani en lui murmurant à l'oreille, « Mon ami ». Et Jésus nous dit tous les jours, « Mon ami ». Et après avoir trahi Jésus, Judas trahit sa vocation de disciple. Car tout disciple de Jésus est appelé à confesser la miséricorde de Dieu. Mais oui, à partir de sa propre expérience de lâcheur. Nous sommes tous des lâcheurs. Quel magnifique apôtre de la miséricorde aurait pu être Judas. Il aurait pu faire comme Saint-Pierre, puis se faire pardonner. À lui aussi, Jésus était tout prêt à dire, « Judas, m'aimes-tu? Affermis, mes frères. » Et c'est ce que Jésus nous dit. Oh, il est grand ce mystère d'union indissoluble du Christ et de son Église dans l'accomplissement du salut ou de la libération de tous les hommes. Les chrétiens sont heureux de célébrer cet aspect de leur foi dans le sacrement de réconciliation. Pourquoi? Parce qu'ils y proclament. C'est ça que nous faisons. Nous proclamons que c'est toujours par son Église que le Christ répand l'Esprit Saint purificateur dans notre cœur. Au sujet du sacrement de la réconciliation, j'aimerais bien vous citer un bref passage d'une déclaration de ce cardinal remarquablement intelligent, cardinal français, le cardinal Etchegaray. Ça se prononce comme ça, c'est un nom, j'oublie le nom de cette partie de la France, près de l'Espagne. Et qu'il déclare, je reviens d'un synode sur le thème de la réconciliation, il déclare ça en 1983, je reviens du synode plus convaincu. Écoutez bien, c'est très important, que la mission prophétique de l'Église se joue au creux du sacrement aujourd'hui le plus déprécié, le plus délaissé. Alors que l'homme moderne accuse les structures plus que les personnes, c'est vrai, on est toujours en train d'accuser les structures, c'est le gouvernement, c'est ici, c'est ça, et on se regarde pas soi-même. Alors que l'homme moderne accuse les structures plus que les personnes, accuse les autres et s'excuse lui-même, voici que le pauvre petit pénitent, par l'aveu de son propre péché, rapatrie la responsabilité à l'intérieur de sa conscience et se met à grandir en se sentant solidaire de tous ses frères. Le pardon peut ainsi devenir plus contagieux que le péché. Ce synode m'a fait respirer aux dimensions du monde et non dans un trou de confessionnal. Le cardinal Etchegaray. Une humiliation, c'est pas ça, le sacrement de la réconciliation. Ce n'est pas une humiliation qui nous mériterait le pardon de Dieu. Il y en a qui conçoivent l'aveu de leur péché comme une pénitence, au sens pénitentiel du mot. C'est pour ça qu'on a changé le nom du sacrement, hein. Une pénitence que Dieu nous demanderait d'accomplir au préalable pour nous accorder ensuite le pardon de nos péchés. Alors, on apporterait notre petit paquet de linge sale au nettoyeur spirituel du confessionnal, puis en récompense de cette petite démarche humiliante, là, on recevrait quoi? Bien, une âme purifiée, plus blanche que neige. Non, Dieu, s'il en était ainsi, il serait vrai de dire que nous méritons le pardon de nos péchés, que nous l'obtenons moyennant une démarche difficile, puis en l'occurrence, il a vu de nos fautes à un prêtre. Or, quoi? Nous ne méritons pas le pardon de Dieu. C'est une grâce absolument gratuite, gratuite, notre démarche pénitentielle. C'est pas destiné à provoquer le pardon divin, comme si Dieu pouvait passer de la rancune au pardon. Dieu n'a aucune rancune, il nous aime. C'est une démarche qui provoque dans notre cœur l'accueil du pardon. Si Dieu ne cesse de nous proposer son pardon, alors pourquoi se confesser? Parce que c'est une rencontre merveilleuse. C'est la rencontre entre une démarche de l'homme puis une action de Dieu. Mieux, la consécration par Dieu de notre volonté de changement, notre volonté de changement, que l'Évangile appelle en grec, vous savez, on entend ça parfois, la métanoïa. Et de confesser les hommes à la sacristie. C'est très important. On a, mon temps, traduit la métanoïa par pénitence, alors qu'il signifie littéralement conversion, retournement du cœur. On peut faire ça dans une sacristie, aussi bien qu'au confessionnal, ou en se promenant même avec un prêtre. Et aujourd'hui, on privilégie un autre terme très riche du Nouveau Testament, catalagé, pour désigner notre retour à Dieu. C'est le mot réconciliation. C'est un beau mot. Il présente, entre autres, l'avantage de désigner là, en même temps notre réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes puis avec nos frères. Ce terme-là, réconciliation, ça nous rappelle aussi, puis peut-être surtout, que notre démarche elle-même, elle a été précédée par une longue patience de Dieu notre Père, qui attend les bras tout ouverts le retour de son enfant prodigue que nous sommes. Et c'est Dieu qui se réconcilie son enfant, son fils, sa fille que nous sommes. Aller se confesser, c'est confesser la miséricorde inépuisable de Dieu, c'est ça. Et sa joie infinie de nous prendre un peu plus dans ses bras. Ce que nous venons essentiellement signifier ou manifester ou célébrer là, dans la démarche de la confession, ce ne sont pas nos péchés, ça c'est une vieille histoire, mais c'est notre désir actuel de changer. Un désir toujours nouveau que l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour est en train de faire naître puis de grandir dans notre cœur. La veille d'une fête, un prêtre est allé aider un confrère curé, pour entendre les confessions de ses paroissiens. L'un d'eux termine son accusation par ces mots: « Mon père, je n'ai plus rien à déclarer comme un douanier. » Faut dire que le poste de douane était à 200 mètres. Faut pas se moquer de cette réflexion qui est assez savoureuse. Mais on ne dira jamais assez que la confession n'est pas une déclaration en douane. Vous savez, quand on passe aux douanes, on se sent coupable, des fois, même si on n'apporte rien qu'on ne devrait pas apporter. On a peur. La confession, c'est une déclaration d'amour. Je ne vais pas d'abord étaler devant un prêtre ma liste de mes péchés. Je vais redire simplement au Seigneur, qui est le prêtre, comme Pierre sur le bord du lac, que malgré tous mes reniements antérieurs, je veux me remettre à l'aimer davantage. Ce que nous apportons d'essentiel dans un confessionnal ou auprès d'un prêtre, qui est le Christ, c'est notre cœur lui-même, déjà retourné par la grâce, animé par la volonté de se réconcilier avec Dieu, avec lui-même, avec les autres. L'aveu, quand on le dit avec la bouche, la confession, c'est rien que la manifestation extérieure de ce désir intérieur de changer. Par l'intermédiaire d'un prêtre, de l'Église du Christ. Mais le Christ Jésus ressuscité consacre notre cœur à moitié converti, ce cœur que je lui apporte. Il s'empare là de ma contrition encore imparfaite pour en faire une contrition parfaite. Une volonté efficace de changement puis de réconciliation. Et cette transformation de notre cœur, elle s'accomplit par une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Oui, oui, oui. C'est pourquoi, avant de prononcer les paroles de l'absolution, le prêtre étend les mains sur le pénitent, puis il dit quoi? Vous vous souvenez, hein? Que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui, et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés, et par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Donc, la Bible multiplie les images pour exprimer la profondeur de cette action divine de nos cœurs, une purification. Hein? Le péché, disent les prophètes, abîme le cœur de l'homme. Il nous colle en quelque sorte à la peau. Bien oui. C'est une guérison aussi, comme la guérison des paralysés, des lépreux, des aveugles, des sourds-muets. C'est une résurrection aussi, la confession, la résurrection des ossements déchaissés, desséchés, comme on le voit dans Ézéchiel. C'est la recréation d'un cœur nouveau, d'un homme nouveau. C'est un bain de jouvence, une cure de rajeunissement. On voit ça dans le psaume 103. Lorsque Dieu nous a renouvelés par la rémission des péchés, il nous a donné une autre forme, si bien que nous avons une âme d'enfant, comme s'il nous créait à nouveau. Et dans une lettre attribuée à Barnabé qui était composée au deuxième siècle. Oh, les mots expriment difficilement la joie du chrétien qui se confesse. Avec la mentalité que je viens de vous décrire, c'est avec l'aide d'un très beau texte de l'abbé Pierre Descouvemont dans son guide des difficultés de la foi catholique. Oh Seigneur, Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres si je ne me rencontre et ne m'aime plus? Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis et non tel que je me rêve, aide-moi à accepter ma condition d'homme limité, mais appelé à se dépasser, et apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent, et donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles, et de m'aimer comme tu m'aimes, et délivre-moi de la perfection que je veux me donner, et ouvre-moi la sainteté que tu veux m'accorder. Épargne-moi les remords de Judas, rentrant lui-même pour n'en plus sortir, épouvanté et désespéré devant son péché, et accorde-moi le repentir de Saint-Pierre. Rencontrant le silence de ton regard, plein de tendresse et de pitié, et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton amour offensé. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore guérir dans la lumière de ton regard et de ta parole. Vous vous demandez quoi accuser? Posez-vous des questions? Ai-je par indifférence laissé Dieu hors de ma vie? Ai-je manqué de foi, d'espérance ou de charité, ou ai-je négligé de prier, de me confesser, de communier? Ai-je manqué de respect à Dieu? Ai-je omis par ma faute de participer à la messe le dimanche? Ai-je manqué de respect à mes parents, à mes supérieurs? Ai-je entraîné les autres au péché par le scandale? Ai-je volé? Ai-je triché? Ai-je menti? Etc. Toutes ces fautes. C'est simple. On peut faire un examen de conscience si simplement. Apprête nos cœurs. Ô Seigneur très bon, par la puissance de ta grâce, apprête nos cœurs. Oui, apprête nos cœurs.